Radio Barque, le sixième de notre 11e saison. Notre invité est André Hernandez, qui est le président de l'intercommunalité de Lézignan. On a déjà évoqué un certain nombre, alors à la fois de réalisations et de projets, monsieur Hernandez, mais on en était sur des choses qui vous tiennent à cœur et on peut le comprendre, la santé et la construction d'un centre de santé. Vous nous avez expliqué comment ça fonctionnera, qui y travaillera. Il reste alors au niveau du local, le lieu, et comment ça va se présenter et où ça sera.
Alors le lieu, c'est un terrain que nous a cédé la municipalité de Lézignan, à côté de l'hôpital. Donc il est très bien situé.
Donc un endroit prédestiné.
Prédestiné, très près aussi du stade du Moulin, vous voyez. Mais donc c'est prédestiné, oui, parce qu'il pourrait y avoir une liaison entre l'hôpital, évidemment, et le centre de santé, avec peut-être des interactions et des médecins qui viendront d'un côté et de l'autre pour pouvoir recevoir les patients.
Oui, oui. Donc tout ça maintenant, c'est sur les rails. Est-ce que vous avez une idée du moment où ça pourra fonctionner ?
Alors oui, on a une idée précise parce que nous tenons absolument à ce que ce centre de santé ouvre en 2025. Donc pour ce faire, nous avons déjà choisi l'architecte. Nous avons déjà évidemment la notion du projet tel qu'il sera. On a bien travaillé avec la commission à cet effet. Nous avons visité des bâtiments modulaires un peu partout, hors département et dernièrement d'ailleurs hier à Perpignan. Donc on sait très vite qu'on va aller vers cela parce que pour des questions de délai. Donc nous avons la certitude que dans 5-6 mois, ce bâtiment pourrait être construit, donc des poses du permis, etc. Donc on peut considérer qu'on aura une livraison à l'automne 2025. En tout cas pour nous, il est impératif que nous ouvrions là, d'autant plus que les médecins, on va les salarier dès la fin du printemps 2025.
Ah oui, oui, donc c'est vraiment du peu, là, maintenant.
C'est imminent, oui.
Oui, important.
Je veux rassurer les Lézignanais parce que, comme je vous le disais, il est important qu'on se penche sur la question de la santé dans cette ville.
Et qu'on n'attende pas le dernier moment, bien
exactement.
Entendu. Oui. Donc là, l'information est claire à ce niveau-là, donc... Alors, construction modulaire, l'avantage, c'est la rapidité.
C'est la rapidité.
Et puis, peut-être aussi, si c'est modulaire, c'est modulable.
C'est modulable, c'est extensible.
C'est extensible.
Parce que dans notre projet, quand même, on se dit qu'on va, pour le moment, construire un centre de santé avec 4 médecins, mais on prévoit d'en avoir 8, peut-être un jour. Donc, l'extension est déjà prévue sur le papier.
Elle
est réalisable.
Vous pouvez aller jusqu'au doublement.
Au doublement, oui.
Oui, oui. Donc, vous voyez assez loin à ce niveau-là.
D'autant plus que le centre de santé peut rejaillir sur l'ensemble du territoire. Comme ils seront salariés, rien ne m'interdit demain de dire à un médecin, voilà, vous allez passer une journée à Talleyrand, une journée à Moutoumet, etc.
pour recevoir les patients. Décentralisé sur l'aglo, sur la com-com.
Tout à fait.
Ça, c'est également dans votre vision des choses.
Oui, parce que la santé, alors je vous parle de Lézignan, évidemment, c'est le bourg-centre, mais c'est évidemment la santé sur le territoire qui m'importe.
Oui, voilà. Donc, c'est bien un centre de santé intercommunal. Voilà. Alors, au deuxième point important sur lequel vous vous engagez et vous engagez l'interco de Lézignan, c'est l'eau. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Mais par où commence-t-on, monsieur Hernandez ?
Alors, vous allez rencontrer là deux présidents distincts. Le premier, c'est celui qui est en colère. Le second, celui qui est offensif.
Bon.
Alors, si vous voulez, parlons de celui qui est en colère. Nous venons d'apprendre que le Premier ministre et ensuite le Sénat proposaient une loi qui aujourd'hui permet donc aux communes de ne pas adhérer, comme c'était prévu obligatoirement, à la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2026. Alors pourquoi je suis en colère ? Non pas que je veuille à tout prix prendre la compétence, mais vous imaginez bien qu'un an avant, nous avons travaillé bien en amont, parce qu'il fallait évidemment être prêt, nous avons engagé des études à hauteur de 144 000 euros, nous avons recruté deux personnels, un chef pour ce service-là, qui est ingénieur, un pour l'aspect financier. Aujourd'hui, voilà que, eh bien, tout ceci est mis à mal sans qu'on considère ce qui a été fait, ce qui a été évidemment engagé par l'intercommunalité.
Oui,
je ne suis pas la seule.
Oui, c'est un peu léger finalement comme vision.
Mais c'est un peu léger. Je me demande quelquefois comment nos gouvernants peuvent prendre des décisions comme ça sans concertation, en prenant des décisions qui nous amputent financièrement. Et là, c'est important quand même. Donc, j'ai réuni hier tous les maires de l'intercommunalité pour savoir un petit peu où chacun en était. Donc, on sent très bien que bien certains maintenant du coup souhaitent ne pas transférer la compétence, d'autres souhaitent la transférer. On va certainement aller vers un système à la carte où viendront ceux qui le souhaitent, mais voyez, c'est une solution un petit peu bancale qui va sortir de là et qui va un petit peu nous pénaliser par rapport à ce qui était prévu.
Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière du fait que vous avez déjà embauché du personnel et vous avez investi.
C'est difficile, on a embauché le personnel est là, donc on va voir comment on va l'employer. Alors si certaines communes adhèrent et sont donc dans notre compétence, on pourra peut-être travailler avec elles. Et donc à ce moment-là, évidemment, on pourra faire un travail, mais c'est quand même pas du tout là ce qui était prévu. Et voilà. Alors je comprends que pour certains c'est difficile de nous manquer à un choix. Maintenant, cela dit, c'est un projet de loi qui doit passer à l'Assemblée, qui reviendra au Sénat, qui peut-être reviendra à l'Assemblée selon ce qui sera modifié ou pas. Donc j'attends de voir, puisqu'aujourd'hui, même si c'est un projet de loi, c'est pas une loi qui a été...
Oui, ça n'est pas encore ferme, mais c'est dans l'air du temps. Quoi.
C'est dans l'air du temps, oui.
Oui, c'est
mais
ça
comme le Premier ministre l'a proposé, que le Sénat l'a proposé, évidemment...
Oui, c'est à prendre au sérieux.
Ben, évidemment, oui.
Alors, au-delà de la colère, évidemment, un élu doit toujours, si je puis dire, retomber sur ses pattes et dire, bon, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, je vous ai dit pour cette partie-là, donc... Nous allons certainement proposer à la carte, et d'après ce que j'ai compris, certaines communes vont déléguer leurs compétences. Et ensuite, il y a le président qui est offensif pour l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau est un enjeu absolument majeur. J'en ai fait une priorité. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus majeur que nous avons une viticulture qui souffre énormément.
Vous le savez. Et là, on entre dans l'eau, non plus l'eau potable, mais l'irrigation.
Oui. Alors, pour l'eau potable, pour en terminer avec le sujet de l'eau potable... Nous avons eu des réunions très intéressantes avec l'ATD, donc le département, pour voir comment on pourrait, par des maillages, permettre à des communes comme Tourzel, par exemple, qui souffrent énormément, d'avoir demain de l'eau.
Il a fallu transporter de l'eau.
Il a fallu transporter de l'eau avec des camions, mais là, il y a des solutions à court terme et certaines à moyen et puis à plus long terme. Donc il y a des solutions qui vont permettre à ces communes d'avoir demain de l'eau. Et en tout cas, il y a un engagement fort de l'intercommunalité, d'accompagnement, avec évidemment le département et toutes les instances pour l'agence de l'eau, pour permettre à ces communes d'avoir demain de l'eau.
Oui, donc une des solutions, par exemple, pour Tourzel, ça serait un agrandissement du réseau, un maillage...
Ce serait un maillage avec le puits qui se trouve à Homs, il y a aussi un puits à Roubia, il y en a un à Paraza, donc il y a des solutions qui permettent, parce qu'il y a de l'eau en abondance dans ces puits-là, de faire un maillage très
court. Oui, un maillage intercommunal.
Voilà. Et ça, avec l'appui de l'ATD et le département, on peut y arriver très prochainement.
Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut se concrétiser rapidement.
Tout à fait, oui.
Oui. Qui est dans vos cordes, en quelque sorte, maintenant. Alors, l'eau, irrigation, la viticulture, l'agriculture en général. Ça, c'est encore une autre paire de manches.
Oui. Alors, je vous dirais que c'est là que peut-être on exerce pleinement le rôle d'élu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un désarroi profond, une souffrance énorme de la viticulture et des viticulteurs sur notre territoire, et en particulier dans les Corbières. Pas que, mais chez nous, en particulier dans les Corbières, et en partie évidemment dans le Minervois aussi, mais je sais que sur le littoral c'est la même chose, il y a un manque d'eau criant depuis plusieurs années maintenant, et les vignes meurent. Et dernièrement, les viticulteurs m'ont demandé à Campelon d'aller voir sur le terrain avec Monsieur le maire, avec Serge Lépine, d'aller voir des vignes dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui. Et effectivement, la sécheresse les conduit à ce qu'il n'y ait d'abord pas de récolte, et ensuite à ce qu'il n'y ait pas de bois pour pouvoir prétendre tailler et l'an prochain avoir encore du raisin. Et donc elles se meurent. Si elles ne sont pas arrosées, elles se meurent. Le constat est le suivant, c'est que sans eau, on ne récolte rien. Donc l'équation, elle est simple. Comment faire en sorte pour arroser ces vignes? Et là, nous avons une réunion, puisque Monsieur le Préfet a tenu parole. Il est venu à Campelon à la rencontre de tous les acteurs du monde viticole. Et ce jour-là, il a dit simplement, oui, moi, vous me parlez de projet, mais qui est porteur de projet? Et je me suis engagé, évidemment, avec l'idée que tous mes collègues du Conseil communautaire allaient me suivre, être porteur de projet. Et à ce moment-là, évidemment, ça débloque beaucoup la situation. J'ai posé par accord de principe cette question au Conseil communautaire suivant, à la grâce. Alors, à part une voix contre et une abstention, à 99%, tout le monde a été pour dire oui, L'Interco doit être porteur de projet et doit aider le monde viticole pour évidemment sortir.
Alors maintenant, concrètement, Monsieur Hernandez, qu'est-ce que ça implique?
Alors ça implique que nous allons évidemment définir quelques projets pour évidemment arroser à très court terme ou à court terme. Pas attendre que Aqua Domitia...
Oui, ben, voilà, il y a des projets plus lointains, voilà, mais qui semblent encore très
éloignés. Qui arriveront dans 8-10 ans, mais ça, on peut pas. Les vignes seront mortes d'ici là.
Donc
il faut les sauver immédiatement.
Voilà, c'est l'urgence, là.
Donc, on a pensé à des micro-forages, à des retenues culinaires. Dernièrement, j'ai reçu les viticulteurs de Parazat, d'Argens et de Roubia, qui pensent pouvoir le faire avec le lac des Aiguilles qui se trouve à Argens. On a plusieurs solutions qu'il nous faut mettre en œuvre. Pour cela, je vais organiser une grande réunion le 3 décembre à Ferrals avec tous les acteurs. Donc je vais inviter tout le monde viticole évidemment, mais également l'État, les conseillers départementaux, enfin tous les acteurs possibles pour nous aider. Puisque je sens, et d'ailleurs je l'ai vu avec Carole Delga Abage et je l'ai vu avec la présidente Hélène Sandrani du département, il y a une volonté aujourd'hui quand même de donner la priorité à ces investissements-là. Donc ce que je souhaite évidemment, c'est deux choses. D'abord d'être accompagné financièrement, mais je souhaite autre chose. Je souhaite que l'État reconnaisse que cette région, elle est sinistrée. C'est-à-dire que si on ne fait rien, demain, eh bien beaucoup, beaucoup de viticulteurs mettent la clé sous la porte, les coopératives ou les vignerons indépendants se trouveront en grande difficulté. Évidemment, c'est toute une économie départementale qui risque d'être... en péril, et beaucoup de choses vont mourir. Parce que quand on pense aux viticulteurs, certes, on pense aussi à tous les métiers qui se rapportent à la viticulture. Mmh. Ceux qui vendent les produits, ceux qui vendent les matériels, ceux qui vendent les tracteurs,
etc. C'est tout un monde économique.
Tout un monde économique qui risque demain de souffrir énormément et de s'effondrer. C'est-à-dire, c'est un appauvrissement terrible de notre département. Et moi, je le ressens beaucoup sur le territoire. Voilà pourquoi je veux agir rapidement. Et donc, ce que je disais, c'est que je vais demander quand même, instamment, avec insistance à l'État, de dire il faut reconnaître que cette région est sinistrée, donc il nous faut des mesures dérogatoires, c'est-à-dire qu'il faut que les dossiers...
Des mesures d'exception.
D'exception, que les dossiers soient inscrits le plus rapidement possible, parce que c'est du très court terme ou du court terme qu'il nous faut. Donc ça ne se prolonge pas dans des méandres administratifs qui feraient qu'on aboutirait dans 3-4 ans, non.
Oui,
il faut qu'on aboutisse très vite.
C'est ça, c'est pas seulement du financement, c'est aussi, par exemple, des processus juridiques qu'il faut revoir, peut-être.
Il faut revoir, il faut... À territoire sinistré, il faut des mesures, évidemment, dérogatoires, qui permettent d'instruire rapidement les dossiers.
Donc, vous avez cette réunion prévue, et là, vous escomptez beaucoup de vous vous attendez beaucoup de cette réunion.
J'attends beaucoup de cette réunion, parce que j'attends, évidemment, de finaliser quelques projets immédiats, et de permettre, évidemment, avec les études nécessaires. Par exemple, si on veut faire un micro-forage, c'est évident qu'il faut des gens compétents pour savoir si on peut taper dans la nappe profonde, les incidences que ça peut avoir. Donc il faut quand même des études sérieuses. Mais à partir du moment où c'est possible, que l'on fasse rapidement, parce que c'est la survie de beaucoup de notre territoire.
Oui. Un dernier point sur ce sujet, justement. Est-ce que déjà vous pouvez donner aux auditeurs quelques endroits ou quelques projets très précis qui vous semblent faisables assez vite?
Alors moi je voudrais...
Forages ou retenues collinaires.
Oui. Alors des forages, oui, on pourrait en faire dans ces zones dont je vous ai parlé, de Camplon, Favrezin, etc., Ferrals ou autres. Et ailleurs, parce que vous allez voir que la demande sera forte, donc c'est quelque chose qu'on pourra, si c'est réussi, de dupliquer par la suite. Il y a cette histoire du lac des Aiguilles là qui m'intéresse beaucoup, puisque les viticulteurs proposent d'alimenter le lac des Aiguilles avec BRL et ensuite eux pomper dans le canal, mais de restituer au canal la masse d'eau qu'ils auraient évidemment pompée dans le lac des Aiguilles pour pouvoir une compensation un petit peu neutre. Et puis il y a des retenues collinaires, on me parle des endroits qui sont ensablés, où il y a beaucoup de gravier, etc., nettoyés. Enfin, on peut faire des repérages comme ça sur le territoire, de projets qui permettront peut-être de stocker de l'eau.
Oui, donc dans l'urgence, on peut déjà faire un certain nombre de choses, vous semble-t-il.
Et il faut les faire. Mais il faut les faire, c'est ça qui m'anime beaucoup.
On marque, André Hernandez, une seconde pause.